Vous êtes sur RTL.
11h-12h30, RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud.
Bonjour la France, ici Rouen. RTL vous régale en direct depuis le musée des Beaux-Arts dans ce magnifique patio, dans ce puits de lumière. En cette fin de matinée, on est là, comme on vous le disait, jusqu'à midi et demi. Aujourd'hui en Seine-Maritime. Alors ce musée des Beaux-Arts de Rouen, on y est parce que c'est le bicentenaire de la naissance de Gustave Flaubert, que le musée des Beaux-Arts lui consacre une exposition intitulée Salammbô. RTL est partenaire de cette exposition, on va vous détailler tout ça d'ici quelques minutes. Avec Louise, avec Jean-Seb, c'est une balade tout au long de la Seine aussi, ouais. Aujourd'hui. Jean-Sébastien, on va resituer un peu l'endroit où on se trouve.
On est en Seine-Maritime,
voilà.
C'est un des 5 départements de la région normande, un département qui compte 130 km de côte, une côte qui court globalement du Havre jusqu'au Tréport, en passant par Étretat, avec ses falaises immanquables, avec Dieppe, avec Fécamp. La préfecture de la Seine-Maritime, c'est Rouen, bien sûr. Rouen qui est à mi-chemin entre Paris et l'embouchure de la Seine, une ville qui est cerclée de forêts, qui s'étend en amphithéâtre sur un pan incliné vers un méandre du fleuve. Ça, c'est pour le côté géographique. Pour l'histoire, on part de Rotumagos, fondée par les Romains. Elle est devenue Rouen. Elle est faite capitale de la Normandie par un certain Rollon en 911. Il fait du duché de Normandie une grande puissance qui sera rattachée au royaume de France en 1204. 1431, il y a eu le procès d'une jeune fille qui sera brûlée pour hérésie. Elle se prénommait Jeanne.
C'est dingue parce qu'il faut dire, on a pris notre petit déjeuner ce matin au pied du donjon. Ouais.
Voilà. Elle venait de Lorraine, cette petite fille. Cela se passa sur l'actuelle place du Vieux Marché, l'exécution. Et cette place, sur cette place se trouve la plus vieille auberge de France. Ouverte en 1345, c'est presque un miracle hein, qu'elle soit encore là, cette auberge. Et il est impossible de ne pas penser aux gens qui étaient aux fenêtres pour regarder ce tragique spectacle du bûcher de Jeanne d'Arc. En parlant fenêtre, il y en a une autre, celle d'un magasin de lingerie devant laquelle Monet avait planté son chevalet pour se mesurer à la cathédrale Notre-Dame. Il a planté ce chevalet, il a peint de manière frénétique une trentaine de toiles de cette façade incroyable. Il a voulu capter chaque variation atmosphérique, chaque nuance de la cathédrale. Le résultat est grandiose. Et dès lors, l'impressionnisme était la Normandie et la Normandie est devenue l'impressionnisme. Il y a une de ces toiles dans ce musée des Beaux-Arts dans lequel nous sommes qui possède une remarquable collection de toiles impressionnistes. Et puis en parlant de peinture, le musée des Beaux-Arts possède un tableau qui s'appelle le portrait de jeune femme de Joseph Désiré Court. On a dit que c'était le portrait d'Emma Bovary, exposé au point que celui-ci illustre encore aujourd'hui maintes éditions. Et la boucle de la Seine est bouclée, puisque nous sommes ici à l'occasion du bicentenaire de la naissance de Gustave Flaubert à Rouen.
Voilà. Si vous levez les yeux, vous regardez face à vous, vous avez le portrait de Louise Petit-Renaud. Œuvre majeure, évidemment. Les visiteurs se massent devant ce tableau.
Au moins, au moins.
Ouais, parce qu'elle va nous parler, elle va leur parler du canard à la rouennaise.
Oui, parce que moi, j'ai envie qu'on se mette en appétit dès maintenant. Alors, forcément, Rouen, c'est chargé d'histoire, mais c'est aussi, il y a des spécialités de la gastronomie, dont le canard à la rouennaise. C'est vraiment la spécialité de la vallée de Seine, c'est le plat incontournable de la région. Alors c'est un caneton entièrement préparé devant les convives par un maître canardier.
C'est comme ça qu'on dit, hein.
Oui, un maître canardier. Ce canard est assaisonné avec de la moutarde, il est rôti, grillé. Ensuite, les filets sont levés à l'aide d'un presse à canard en argent.
C'est magnifique cet objet.
Oui, c'est pour ça que je voulais absolument en parler. C'est un savoir-faire, c'est un spectacle. Ensuite, il est nappé de sa sauce rouennaise, c'est-à-dire que c'est un fond de sauce à base de vin de Bordeaux, d'échalotes, puis il est flambé. Et ce qu'il faut savoir, c'est que seul un membre de l'ordre des canardiers peut proposer ce plat dans son restaurant. Donc c'est vraiment un rituel,
c'est un bon
le canard à la rouennaise.
C'est un bon début pour...
Voilà, je voulais absolument qu'on se mette en appétit d'entrée de jeu comme ça, parce que je sais aussi, vu qu'on est ici pour parler de cette sublime expo Salammbô, qu'on va forcément faire le parallèle avec cette pâtisserie, le Salammbô, parce que comme vous le savez, RTL vous régalera quoi qu'il arrive.
Il sera notre invité d'ici quelques instants. Bonjour Olivier Clément.
Bonjour.
Bienvenue dans RTL vous régale. Vous êtes guide conférencier ici de l'exposition Salammbô. Est-ce que vous êtes un gastronome ?
Bon, j'aime bien ce qui est bon.
C'est d'accord. Une bonne chose.
J'ai compris que ce n'était pas votre obsession première.
Non, mais oui, j'aime bien manger. En plus, non, dans une région tout à fait propice.
Hein. C'est vrai, parce qu'on va parler beaucoup d'histoire, d'art, etc. avec vous dans quelques instants, mais on va devoir évidemment aussi parler de cuisine, parce qu'à un moment donné, ça nous rattrape.
Bah oui,
c'est comme ça. On est comme ça dans cette émission. On est avec vous d'ici quelques instants dans la playlist d'RTL vous régale. Avant midi et demi, les Stray Cats. Ajoutez-y l'instinct de Florent Pagny.
Suivi mon
instinct. Un tube signé Alain Chamfort.
J'ai la fièvre dans le sang. Cette vie m'échauffe les sangs.
L'un des plus gros succès de cet été 2021.
Start my truck, so jump in. Here we go together.
Et un habitué de la maison, c'est Julien Doré.
Serre-moi de l'amour dans un verre de pastaga.
On a un petit Vanessa Paradis aussi, on en a un sous le coude.
Mon
idylle. Les évidences de toute une région, de la régalade, et puis une histoire. Celle de Salambo qu'on va vous raconter en quelques minutes, juste après ceci. A tout de suite, c'est RTL vous régale.
RTL.
Jean-Michel Zeka vous régale jusqu'à 12h30.
Magasin.
RTL. Jusqu'à 12h30, RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka.
RTL vous régale jusqu'à midi et demi. Nous sommes, je vous le rappelle, en direct depuis le musée des Beaux-Arts de Rouen qui célèbre cette année le bicentenaire de la naissance de Gustave Flaubert qui était né à Rouen en 1821. Et pour lui rendre hommage, eh bien, ce musée des Beaux-Arts dans lequel nous nous trouvons lui consacre jusqu'au 19 septembre une exposition intitulée Salambo qui s'inspire du roman éponyme de ce roman apparu en 1862, 5 ans après Madame Bovary. Olivier Clément est avec nous ce matin. Bonjour, rebonjour. Je rappelle que vous êtes guide conférencier de cette exposition. Salambo, faut se resituer dans le contexte de l'époque. C'est un succès colossal et c'est un succès immédiat surtout à l'époque.
Oui, ce qui a été tout à fait surprenant, parce qu'il avait, il était déjà connu pour Madame Bovary, mais sous le mode d'un baffin de scandale. Le livre a été attaqué par la censure impériale. Et là, en quelques semaines, c'est des milliers d'ouvrages qui sont édités. On réédite très rapidement, en quelques mois. Les éditions se succèdent. Ça a été un gros succès. Il a vraiment rencontré le grand public, au sens large du terme, avec ce roman.
Alors, Salambo, c'est quoi? C'est un roman historique, d'abord.
Un roman historique.
Qui raconte une histoire d'amour.
Qui est une histoire qui est basée sur un fait divers antique, une guerre qui oppose les mercenaires employés par les Carthaginois à la ville de Carthage. Et c'est un fait historique avéré, hein, qui est connu par un texte antique. Et Flaubert va s'en emparer, va le suivre très scrupuleusement, mais il va greffer dessus une histoire d'amour impossible entre la fille du général carthaginois Hamilcar, qu'il baptise Salambo, et un des chefs des révoltés, qui s'appelle Mato.
Histoire provocatrice pour l'époque?
Oui, parce qu'elle est très puissamment sensuelle. Puis le livre est passionnel. C'est un tissu de violence, d'horreur, de sadisme.
Et d'érotisme.
De cruauté et d'érotisme. Et tout ça s'entremêle de façon assez efficace.
Vous nous racontiez hier, je trouve ça passionnant, parce que vous nous avez expliqué en quelques mots ce qui se passait à l'époque, mais... Pour parler de son roman, il y a un plan de communication, on parle pas comme ça à l'époque, mais c'est une espèce de plan de marketing qui est mis en place. Et pour la sortie, il invite des amis à un dîner oriental. Et ce qu'il annonce est absolument étonnant, quoi.
Alors il a un sens de la formule et de la provocation assez exceptionnel, Flaubert. Et un an avant la sortie du livre, enfin l'année précédente, il invite... La lettre est restée, hein. Il invite certains de ses amis dans les Goncourt et il leur annonce qu'il leur fera une lecture de ce qu'il est en train d'écrire, là, ce roman qui va devenir Salambo, et il leur annonce qu'il va faire un repas oriental.
Comme on parle de cuisine dans cette émission, il faut décrire le repas.
Oui.
Oui, un repas oriental. Alors,
l'effet d'annonce est génial.
Et provocateur, un repas qui n'a pas eu lieu, bien sûr.
Mais non, évidemment.
Il leur annonce qu'on dînera de chair humaine, de cervelle de bourgeois, de clitoris, de tigresse, ouais. Au beurre de rhinocéros.
Ah.
Hey, quand même. Ça a de la gueule, c'est autre chose que vos défis frigo.
Ouais, je préfère RTL, je vous régale.
Ah bah. Alors cette exposition, Olivier Clément, s'intitule Salambo, Fureur, Passion, Éléphant.
Oui, parce que le roman est un tissu d'horreur. Hein. Tout n'est que haine, violence, Crucifixion, décapitation, torture, enfin c'est la guerre des mercenaires est une guerre extrêmement violente, une guerre inexpiable, selon son écrivain. Éléphants, parce que les éléphants faisaient partie de ces sortes de tanks vivants utilisés dans les armées carthaginoises, et puis passion, parce que toutes les passions sont là, les passions les plus violentes aux passions les plus érotiques.
C'est un tel succès que ce roman va devenir le sujet de beaucoup d'œuvres d'art sous toutes ses formes. Il y a de la peinture, il y a de la sculpture, il y a de l'opéra, on le retrouve dans le cinéma, il y a des traces dans la photographie.
Dans la bande dessinée aussi. C'est la seule œuvre de Flaubert qui ait suscité autant de créations d'ordre différent. De Madame Bovary, on connaît deux peintures qui sont tirées de Madame Bovary, point barre, rien d'autre. C'est des dizaines et des dizaines de peintures, de sculptures qui ont été tirées et qui ont été inspirées du roman de Flaubert à la fin du 19e et encore début 20e.
C'est une exposition passionnante qui se tient, je le rappelle, jusqu'au 19 septembre, Salambeau, ici au musée des Beaux-Arts de Rouen. Comment le public accueille-t-il l'exposition depuis le démarrage ?
Bah écoutez, étonnante, il y a beaucoup de jeunes.
Ouais.
Alors qu'en général, on a un public plutôt mature, assez banal, assez habituel dans les musées.
C'est dû à l'œuvre.
Exposition. C'est lié à l'œuvre, c'est le fait qu'il y ait une telle déclinaison, justement, où un roman, on va passer l'opéra, la bande dessinée, ce qui est quand même assez rare. Et puis l'affiche aussi qui est tirée, qui s'inspire de Druillet, qui est reprise d'un portrait de Salambeau inventé par Druillet, par Philippe Druillet. Je pense que c'est assez stimulante. Et assez intrigante.
Ah, ça attire la curiosité en tout cas.
Merci en tout cas Olivier Clément d'être venu nous voir dans RTL Vous Régale. On vous souhaite une bonne journée.
Merci beaucoup.
RTL Vous Régale jusqu'à 12h30 en direct depuis le musée des Beaux-Arts de Rouen. La suite après ceci. Et ceci c'est en 1981. Le Rock This Town de Stray Cats sur RTL. On vous souhaite une très belle fin de matinée. C'est l'époque à laquelle Jean-Sébastien Petit-Demange avait encore la banane gominée, le blouson en cuir.
C'est ça. Voilà. Exactement.
Quelle belle image. Rock This Town.
C'est avant-hier.
Stray Cats sur RTL. On va vous parler de cuisine dans un instant. RTL Vous Régale va accueillir plutôt deux chefs qu'un seul.
Deux frères. Et pour un restaurant.
Les frères Potier, on vous en parle dans un instant. A tout de suite.
11h-12h30.
RTL Vous Régale.
RTL.
suite, retour de RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka.
Je vous le disais, on va vous parler de cuisine. On aura mis pas très longtemps pour passer à table hein, dans RTL vous régale. Je vous le disais, ça nous rattrape toujours.
Moi, je trouve faire cette émission juste devant le déjeuner à Yport, ouais, qui est derrière nous, c'est un truc absolument magique. Je suis fasciné par ce tableau. Autant que par le déjeuner sur l'herbe, ce tableau reflète tout ce qu'on aime.
On pouvait pas être ailleurs.
Il y a des tourtes, il y a de la volaille, il y a des gens qui boivent du vin, il y a du calva sur la table, il y a des enfants qui jouent avec des fleurs.
On a mis la photo sur les réseaux sociaux, ouais, si vous voulez voir.
Allez, jetez un coup d'œil, c'est ce tableau est impressionnant. Sublime. J'ai un peu le sentiment qu'on va recevoir les Big Flo et Yoli de la cuisine. du coin.
C'est exactement ça.
Rodolphe et Jordan Potier. Bonjour les frères.
Bonjour. Bonjour. Bonjour.
Il y en a un qui est chef, c'est Rodolphe, il est en cuisine.
C'est ça, oui.
Jordan, il est en salle, il s'occupe des vins, c'est ça?
Ouais, principalement.
Alors, c'est une très belle maison qui porte votre nom d'ailleurs. Hein.
Merci. Oui, le prénom de mon frère. Oui.
Voilà, tout simplement, c'est la maison Rodolphe Potier. Alors, un mot sur cet établissement, sur cette maison rouennaise. Vous n'avez pas 30 ans?
Si.
Si?
Ouais.
À peine?
Ouais. Ouais, depuis peu.
Et demi.
33.
Partie des plus jeunes chefs de France.
Oui, oui.
On peut le dire.
Oui, bien sûr.
Bah, Rodolphe a été le plus jeune chef étoilé de France il y a quelques années, quand même, maintenant.
Oui. Alors, à son compte, surtout.
Chef à son compte.
Oui, surtout.
C'est beau cette expression.
Ouais, ça...
À son compte. Ouais, ça veut tout dire, surtout quand on sait quelle période on vient de traverser et quand on voit le sourire que vous affichez aujourd'hui. Franchement, vous savez que nous, on fait cette émission aussi pour soutenir les chefs, pour mettre en lumière les restaurants, les gens qui font des cuisines formidables. C'est votre cas, on va en parler en vous donnant un exemple tout de suite de ce qu'on est en droit d'attendre de votre déjeuner chez Potier aujourd'hui, par exemple.
Aujourd'hui, par exemple, on va travailler les produits de saison, bien évidemment. En entrée, on va retrouver une espèce de salade de tomates, on va dire, assaisonnée avec pas mal d'herbes aromatiques, de la verveine, du basilic, plusieurs variétés de basilic, et accompagnée de chair d'araignée, donc tiède comme ça, avec un petit biscuit d'araignée qui l'accompagne. Un jus d'araignée, quelque chose de gourmand.
On est en Normandie, il y a des produits de la mer, évidemment.
Bien sûr, oui.
Il y a du lieu au menu, je pense.
Il y a du lieu, oui. Il y a du lieu jaune de ligne, qui est étuvé avec du plancton marin, servi avec quelques coquillages juste ouverts, comme ça.
Étuvé avec du plancton marin?
Oui, en fait, on le fait mariner un peu dans du plancton, et on le cuit à très basse température,
c'est
comme ça.
C'est pour le côté iodé.
Oui, c'est ça, exactement.
Ouais. Avec des oignons d'eau de la région?
Oignons doux de la région, des anchois fumés, un petit jus avec le jus des coquillages.
Des anchois fumés.
11h24, ça y est, c'est parti.
Ça y est, c'est parti. Le compte à rebours est lancé. Qu'est-ce qu'on mange ce midi?
Attendez, Louise, quand je vous aurais dit que vous pouvez y trouver du pigeonneau aux blettes.
Ah non.
Ah, pigeonneau aux blettes.
Passion,
ouais,
pour ça.
Ouais. Moi, ça, c'est un super produit. C'est vrai qu'on cuit le pigeonneau entier sur sa carcasse. Ensuite, on lève les filets au dernier moment, on les grille juste comme ça, côté peau. Et c'est servi avec pas mal de baies, de cassis, des myrtilles, des cerises qui sont farcies avec les cuisses de pigeon, des blettes juste déglacées au vinaigre comme ça, pour amener un petit peu d'acidité.
Jordan, qu'est-ce qu'on sert là-dessus?
Sur le pigeonneau?
Ouais.
J'aime bien les vins de chez Michel Aubery du domaine Gradenon là-dessus. On ira chercher un peu de fruits, un peu de souplesse avec des jeunes vignes de Grenache. Et puis 14 degrés, pas de maux de tête et une bonne sieste à l'après-midi.
C'est le package quand on va chez les frères.
Et sur l'araignée de mer, langoustine.
On irait bien chercher les vins de chez Fabien Dupéré sur un beau Beaujolais blanc comme ça, assez typé chablisien d'ailleurs.
Oh, c'est beau ça.
Délicieux. Ouais.
J'adore leurs expressions. Ouais. On va aller chercher. Ouais, moi je vous le dis, on va aller les chercher.
Et on va les trouver.
On va les trouver.
Et surtout, on parle là-dessus.
On parle là-dessus. Et alors, on ajoute aussi, en dessert, on va être sur de la rhubarbe à la menthe poivrée.
Exactement, oui. Sur la fraîcheur, beaucoup, ce dessert-là, il y a plusieurs textures de rhubarbe, du cru, du cuit, du compoté, du glacé, du chaud. croustillant.
Vous vous rendez compte de ce que vous me faites ? J'ai voulu manger des huîtres hier en entrée. Il n'y avait plus.
Oui. Voilà. Ah oui, donc il a très mal dormi.
Il a eu une tomate mozza.
J'étais contrarié.
avec un peu de pesto, quoi.
Oui.
Enfin, machin. Et surtout, ce qu'il faut dire, c'est que ce menu déjeuner, qui est une espèce de feu d'artifice, de saveur, de goût, de bonheur, il est à 39 euros.
Voilà. Oui, on a un petit peu augmenté les prix, mais oui, c'était ça il y a quelques temps. Oui.
Mais c'est combien maintenant ?
45.
Oh, bah ça va, c'est
ça va
plus,
pour un étoilé.
Rodolphe et Jordan, plutôt Rodolphe, d'ailleurs, c'est vous le chef, je le rappelle. Comment, c'est un exercice difficile. Comment on peut résumer la philosophie de votre cuisine ?
Ma cuisine, elle est, je dirais, d'apparence assez simple. Après, il y a énormément de travail en amont. Parce qu'en fait, on va chercher le meilleur de chaque produit. Moi, je passe beaucoup de temps à dénicher des producteurs, des fournisseurs, pour vraiment avoir le meilleur produit. Et je pars de là. Une fois que j'ai le produit que je souhaite, j'essaye de le mettre en valeur le plus simplement possible.
On parle de cuisine normande ?
Pas nécessairement. On a de très beaux produits en Normandie. Au niveau du maraîchage notamment, j'arrive à trouver des superbes choses. Après, pour les produits marins, par exemple, on peut aller un petit peu plus loin aussi. Mais c'est vrai qu'on essaye toujours de mettre en valeur la région, oui, au maximum.
Alors, ça fait quoi de travailler en famille ? C'est bien ? C'est porteur ou au contraire ?
Ça peut être conflictuel, mais ça s'oublie vite. On se chamaille depuis qu'on est tout petit, donc on a un petit peu l'habitude de ça.
Mais en plus, entre un chef et un sommelier, vous imaginez les égos ? Non mais c'est ça, c'est ça.
Non mais il y a un rapport de confiance qui est énorme. Et c'est vrai que moi, le fait d'avoir mon frère qui est en salle... Déjà, il raconte les plats, il les connaît autant que moi, quasiment. Il les déguste tous. C'est la continuité de mon geste en cuisine. Et voilà, il a l'amour de ce que je fais. Il retransmet vraiment aux clients, quoi.
Jordan qui affiche un t-shirt, je ne travaille pas ici, au musée des Beaux-Arts de Ronsard. L'avait compris, parce qu'il a une bouteille d'eau devant lui.
Comment, quand on est frère, on traverse la période qu'on vient de vivre. Est-ce que c'est plus facile, ça permet de se serrer les coudes et de pas désespérer complètement?
Ouais, bien sûr, on a essayé de se réinventer quand même, hein, pendant la période. On a pu essayer pas mal de petites choses qui nous tenaient à cœur, et puis l'inactivité commençait à nous peser. Donc on a essayé pas mal de petites choses différentes sur différents créneaux. Je pense notamment à une opération qui avait été mise en place par la ville de Rouen sur la place de la cathédrale. On nous a mis à disposition un petit chalet, donc on a fait de la vraie street food.
La cuisine à emporter
aussi. Mais vraiment street food avec des petits prix, et ça a eu un gros succès, on s'est bien amusé à le faire.
Qu'est-ce qu'on fait comme street food quand on est chef étoilé, vite fait ?
Alors, on avait une carte assez courte. On faisait des hot dogs maison, bien sûr, avec des saucisses noires de Bigorre maison. Moi, je me levais à 4h tous les matins, comme un boulanger. Je faisais les pains hot dogs, les pains à kebab.
Génial.
Je faisais des falafels, je faisais des fish and chips. Tout était fait maison, les kebabs, les viandes, les marinades, les sauces.
Ok, la maison Potier, c'est ouvert aujourd'hui ?
Oui.
Faut réserver, évidemment, parce que c'est complet ce soir.
Et ce midi également.
Mot de passe, RTL vous régale.
L'adresse à Rouen, vous êtes à 2 minutes du musée. Hein.
Oui, tout à fait, 35 rue Percière.
Merci les frères.
Merci à vous.
Merci.
Merci.
On va vous laisser repartir en tournée.
Et surtout en cuisine.
Surtout. RTL vous régale, c'est Louise Petit-Renaud et les challenges de Louise. Dans un instant, à tout de suite sur RTL.
11h-12h30.
RTL vous régale. Avec Jean-Michel Zé.com.
11h-12h30.
RTL vous régale.
RTL vous régale à 11h31 avec les petits challenges de Louise Petit-Renaud.
Oui.
Louise, est-ce que vous êtes prête ?
Ah bah toujours, moi, vous savez bien.
C'est vrai que Louise répond depuis le début de l'été et elle le fera jusqu'à la fin. À toutes les questions que vous pouvez vous poser en cuisine, vous avez besoin d'un petit conseil, vous êtes embêté, vous avez un truc qui fonctionne pas, elle va vous trouver des solutions. Exemple, Charlotte est à La Rochelle, elle a fait une sauce pour ses légumes. La sauce s'est avérée être un peu trop légère. Que faire ?
Moi, je trouve ça génial qu'on puisse donner des astuces pour surtout ne pas jeter quand on a l'impression d'avoir un loupé. Alors, Charlotte, si une sauce est trop légère, il suffit d'ajouter une noix de beurre malaxé avec un petit peu de farine et de relier la sauce comme ça. Et vous allez voir qu'elle va s'épaissir instantanément.
Mmh. Amandine d'Épinal, il lui reste du concombre. Que faire avec un reste de concombre ?
Bah alors, si le concombre, en plus, s'il a traîné un petit peu, il est un peu mou. Donc, il faut faire une soupe froide de concombre. Ah oui. C'est-à-dire, Amandine, que vous allez mixer votre concombre avec du yaourt, un peu d'ail, de l'huile d'olive, un jus de citron, sel et poivre. Et vous avez une parfaite entrée pour votre famille. Vous invitez qui vous voulez, d'ailleurs.
Didier, à Aix-les-Bains, vous appelle à l'aide. Parce que hier, on a eu des mythes de placard, vous vous souvenez? On a trouvé une solution pour les mythes de placard.
Ah oui.
On monte.
J'ai reçu beaucoup de messages de gens qui ont trouvé l'astuce formidable.
Évidemment, on monte d'un cran.
Oui.
On élève le niveau. Didier, sa cuisine est envahie de mouches.
Oui.
Là, il faut laver, là.
Non, mais. C'est, voilà.
Ou il faut vendre.
Bon, alors, quoi, il faut trouver une astuce avec les mouches, c'est ça?
Bah, je vous demande, oui, une solution.
Eh bien oui, il y a une astuce qui est très simple et qui fonctionne, du tonnerre de Dieu. Didier, vous placez un oignon que vous allez piquer de clous de girofle et vous allez voir... Arrêtez de rigoler à chaque fois. C'est pas parce que vous vous sentez pas concerné que voilà. Et donc vous piquez cet oignon avec des clous de girofle et ça va effrayer les mouches.
Ça, vous l'avez testé?
Mais oui, je teste
ça
tout.
Va effrayer les mouches.
On le met où l'oignon?
Dans la cuisine, dans l'endroit où.
Il y a un endroit particulier. Y a...
Bah, ça dépend non, la taille de votre cuisine, mais personnellement.
Vous le mettez dans le placard, c'est comme ça, limite. Dégage et les mouches prennent peur puisqu'elles sont, selon les dires de Louise, effrayées.
Voilà.
Vous n'avez jamais
c'est
vu une mouche effrayée.
C'est ça des hommes qui ne cuisinent pas, vous savez pas ce que c'est.
Dans un instant, le petit tour de Jean-Sébastien. Alors, Rouen, évidemment, il y a mille et une choses à raconter. On en parle dans quelques minutes.
Ben oui.
Il est 11h33, nous sommes en direct de Rouen où j'ai le sentiment qu'on passe une très belle fin de matinée. A tout de suite sur RTL.
Je ne suis pas de ceux qui changent le monde, d'autres le font pour moi. D'une vie qui dure que quelques secondes, j'ai fait si peu de choix. Je n'ai suivi que des sirènes, de mes cinq sens le sixième. J'ai trouvé des hasards, quelques routes vers quelque part. Ce n'est que mon chemin, mais c'est de là que je viens. J'ai suivi mon instinct. Je n'ai rien d'un ange, j'ai rien de ces héros. Je vais où est ma chance. Sans pouvoir étrange, sans aile dans le dos. Pour ne pas tomber, j'avance. J'ai cherché l'amour loin devant. Je me suis trouvé en passant au détour d'un après. Elle était où je l'attendais. Ce n'était qu'un frisson, mais mon cœur était certain. J'ai suivi mon instinct. Tout bien mieux que les autres diront que c'est du vent. Je ne suis qu'un homme sans Dieu ni apôtre. Je gagne ou bien j'apprends. J'ai marché au son d'une voix. Un grand fil tendu sous mes pas. Sans croyance ni prière. J'ai touché un bout de lumière. Ce n'était qu'un instant. Fait mon destin, j'ai suivi mon instinct. Mon instinct. Quand tout finira sans l'ombre d'une ombre, petit ne m'en veux pas. Bien plus que tu ne penses. C'est de là que tu viens, mais tu feras ton chemin si tu suis ton
l'instinct de Florent Pagny sur RTL. Jean-Seb, dans un instant, on fait un petit tour dans Rouen. Rouen qui est une... qui est une ville au passé.
Une ville d'histoire.
Riche.
On peut dire ça.
On vous en parle dans quelques minutes. Ne bougez pas, on arrive.
RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka.
RTL. 11h, 12h30, RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka.
Allez, on vous prend par la main comme tous les jours dans RTL vous régale et on vous emmène. On va vous faire faire un petit tour dans Rouen avec Jean-Sébastien. Rouen, c'est une ville qui, à l'image du Havre, par exemple, a payé un lourd tribut à la Deuxième Guerre mondiale.
Mais on a l'impression, n'empêche, que Rouen a choisi de cacher son jeu derrière des immeubles qui font croire qu'on arrive dans une sorte de Manhattan sur Seine. Mmh. Une fois qu'on est dans les rues piétonnes du centre, on est très vite séduit par le charme discret de ces vieux quartiers, par l'âme vénérable des 2000, des quelques 2000 maisons à pans de bois. Si on ajoute à cela des monuments en pagaille, des musées absolument passionnants, une cathédrale totalement sublime, la cathédrale Notre-Dame, c'est une des plus belles constructions de style gothique qui soit en France. Une façade qui est une dentelle de pierre, avec deux tours totalement différentes. La tour Saint-Romain qui est à gauche, et puis la tour de Beurre qui est à droite, haute de 75 mètres. Elle est d'un raffinement totalement ahurissant. Et puis vous avez la flèche centrale qui s'élève vers le ciel jusqu'à 151 mètres. Alors si je commence à vous parler de la façade et des trois portails, on va y passer la journée. Monet y a passé quelques années à peindre tout cela. Autre église, l'église Saint-Maclou, qui date du 15e siècle, qui est digne d'intérêt, qui a sur son flanc gauche ce qu'on appelle l'être Saint-Maclou, qui est un ancien cimetière datant de l'époque où la peste noire sévissait. Et c'est le dernier témoin en Europe de ce qui était un charnier urbain au cœur d'une cour bordée de galeries avec des maisons à pans de bois. L'endroit est totalement impressionnant. Le site a été intégralement rénové. Alors c'est vrai que c'est pas forcément réjouissant, mais c'est vraiment à aller découvrir. Et puis la carte postale que l'on envoie depuis des générations depuis Rouen, c'est le Gros Horloge. Alors vous allez me dire pourquoi le Gros Horloge? Bah parce qu'aujourd'hui c'est féminin une horloge, mais autrefois c'était masculin. Et l'horloge de Rouen, elle est restée de ce genre masculin. Le mécanisme, il date du 14e siècle. C'est le plus vieux mécanisme en Europe à sonner chaque quart d'heure. Le cadran, il date du 16e siècle. Il n'y a que l'aiguille des heures. Et puis, outre la place du Vieux Marché, sur laquelle on a brûlé Jeanne d'Arc, il y a l'Historial qui se trouve dans l'archevêché où les procès de Jeanne d'Arc eurent lieu. Il faut se rendre là-bas. De la crypte à une tour de guet, on suit l'histoire de cette jeune bergère qui voulait bouter les Anglais hors de France grâce à un dispositif audiovisuel qui est ultra moderne. On vous raconte tout ça, c'est totalement passionnant. Rouen s'avère être une des plus belles capitales régionales de France, puisque nous sommes au musée des Beaux-Arts, je vais citer Pissarro, qui disait que Rouen, c'est beau comme Venise.
C'est vrai.
Et le parallèle, je trouve, est absolument magnifique.
Il est bienvenu, en tout cas. On est au cœur de ce musée des Beaux-Arts pour l'exposition dont on vous parlait en début d'émission, consacrée à ce roman de Flaubert, Salammbô. Est-ce que je le prononce bien d'ailleurs?
Oui, Salammbô.
Il y a deux M.
Il y a deux M pour bien qu'on prononce, ouais, c'est ça. Et puis ça tient donc évidemment du son nom du roman de Flaubert, mais il y a aussi la maison Boissier, qui est un célèbre confiseur parisien, qui était très apprécié par la haute bourgeoisie impériale à l'époque, qui fabriquait des douceurs comme les douceurs de l'Empire, les papillotes de la princesse Mathilde, les caramels du Petit Prince. Et Boissier en fait profite de chaque succès, enfin pas de tous les succès, mais de plusieurs succès au théâtre et en librairie pour adapter sa carte. Et donc tout de suite après la publication de Salammbô, le pâtissier propose un nouveau petit four à la crème baptisé du nom de l'héroïne, le fameux Salammbô. Alors il a été un peu, on a enlevé un M pour le simplifier, donc je sais pas si vous voyez ce chou à la crème, mais je crois que nous avons au téléphone un grand pâtissier, un chef pâtissier, Jean-Christophe Janson,
qui est chef pâtissier chez Le Nôtre, qui est meilleur ouvrier de France en plus. Bonjour.
Rien que ça pour nous parler de Salammbô.
Bonjour Jean-Christophe Janson.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Bienvenue sur RTL. Alors, est-ce que vous pouvez nous le décrire, ce Salammbô? Tout le monde ne connaît pas forcément, hein. C'est un gâteau qui était tombé un peu en désuétude à un moment donné.
C'est ça, oui, tout à fait. En fait, c'est toujours des effets de mode, hein, évidemment. Hein. Mais la pâte à choux reste une des valeurs sûres de la pâtisserie française. Et pour le coup, elle a une forme de Salammbô, elle a une forme de religieuse, d'éclair. Ce qui est sûr, c'est que moi, du temps de mon apprentissage, on faisait beaucoup de salambeau et bien souvent, on le retrouvait caramélisé, c'est-à-dire trempé dans le caramel, retourné sur des amandes effilées. Ouais. Et c'était une référence.
Oui, à l'époque, il se faisait comme ça. Donc, pour rappeler, c'est une pâte à choux, c'est ça ?
C'est ça.
Aujourd'hui, on ovale. Le voit, c'est soit glaçage vert ou rose.
C'est ça.
Et alors, avec
souvent,
des petites paillettes
de chocolat. Ceux-là, voilà, ceux-là, on les appelait souvent les glands aussi, parce que ça avait la forme d'un gland. Donc,
c'est quoi
donc,
comme crème
légèrement. C'est une crème pâtissière. Alors, après, parfumée, comme on veut, hein, mais c'était régulièrement, on trouvait ça au kirsch ou au rhum.
Ça a fait partie, à un moment donné, de l'iconographie des pâtisseries traditionnelles françaises.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Au même titre que les éclairs, les Saint-Honoré, les choses comme ça.
Exactement, oui, oui, exactement. Après, on peut, si on veut remonter un petit peu dans l'histoire, on peut remercier celui qui a inventé la pâte à choux, parce que aujourd'hui, moi, comme je dis, on transmet un savoir-faire. Ça fait partie de notre devoir, mais on n'a pas inventé grand-chose. Donc, qu'on ait l'humilité de ça et d'admirer tous ceux qui nous ont fait ces créations, comme justement cette pâte à choux qui s'appelait la pâte à choux au départ et qui servait à faire le popelin. Et c'était un gâteau qui était fait par Popelini et qui s'est transformé après au niveau du nom en pâte à choux pendant la période d'Antonin Carême.
C'est amusant de voir parfois le cheminement des desserts qu'on connaît, qui sont devenus des succès, etc. Il y a souvent des histoires étonnantes et des petites histoires qui se cachent derrière.
Alors justement, Jean-Christophe, parce que nous, on adore les secrets ici. C'est quoi le secret d'une bonne pâte à choux ?
Alors, le secret d'une bonne pâte à choux, c'est qu'elle soit cuite tous les jours, déjà. C'est un produit qui est ultra frais. Mmh. On appelle ça les pâtisseries ultra fraîches. Et donc, c'est cuit tous les matins, c'est garni. Dans les secrets, en fait, il faut... avoir une bonne farine qui permette un bon réseau, un bon dessèchement de la pâte qu'on appelle la panade, et puis après on y rajoute autant d'œufs que de liquide.
Ah, c'est
toujours.
Ça. Voilà. Et tout ça avec une bonne crème pâtissière et c'est le paradis quand même. Hein.
Voilà, et là c'est le bonheur.
Et alors je sais que vous êtes un dingue de baba au rhum.
Oui.
Et le baba au rhum. Est redevenu quand même à la mode. On le trouve quasiment dans toutes les pâtisseries. Alors, j'aime pas dire ça, mais un peu branché.
Oui.
Pourquoi pas le salambeau ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous voulez pas qu'on relance la mode ?
Ça, ben, pourquoi pas, ouais. Pourquoi
parce
pas ?
Que j'adore
parce que
ça, moi.
Franchement, c'est une superbe pâtisserie.
Ouais.
Mais qu'on relance tout simplement la mode, parce que vous l'avez dit très justement, la pâte à choux ne souffre pas la médiocrité, et surtout il faut que ce soit hyper frais.
Et c'est
je vais encore saluer une fois, j'en ai déjà parlé ici même, cette initiative du syndicat des boulangers français qui a mis en place une marque qui s'appelle Boulanger de France, qui fait que les boulangers s'engagent à ne vendre que de la restauration boulangère faite fraîche sur place.
Sur place.
Tous les jours, et du coup, on trouve les meilleurs éclairs qui soient, des religieuses. Pourquoi pas des salambeaux qu'on pourra remettre à l'honneur, parce que c'est véritablement quelque chose qui est fabuleux. Un Saint-Honoré avec des choux à la crème frais,
mais
c'est
on
un
est d'accord.
Truc.
On est d'accord.
Tombe par terre mais de bonheur, quoi.
Vous prêchez un convaincu. Chez Le Nôtre, vous savez, dans chaque boutique, il y a un atelier. Il y a des chefs qui sont là pour tous les matins cuire les tartes.
Et ça, c'est important. Merci Jean-Christophe.
C'est la base.
Voilà. Jean-Christophe Janson, pâtissier chez Le Nôtre et meilleur ouvrier de France.
Dès que je l'ai vu, j'ai su les ennuis qui m'attendaient. Elle m'a pas déçu. Elle, il fallait que je l'aie, même si pour ça le ciel. Où l'enfer m'avalait. Elle est belle comme une princesse de sang, de celle qui rend un homme faible et languissant. J'ai la fièvre dans le sang, cette fille m'échauffe les sangs. Comme un adolescent, je déraille bon sang. J'ai la fièvre dans le sang, je le sens, ne finira pas sans effusion de sang. Si j'avais vu l'anneau d'or à son doigt, j'aurais fui.
paradis, supprimons tout obstacle entre nous. Elle parle comme une princesse de sang, de celle qui rend un homme plus qu'obéissant. La fièvre dans le sang, cette fille m'échauffe les sangs, comme un adolescent, je déraille bon sang. La fièvre dans le sang, cette histoire je le sens, ne finira pas sans effusion de sang. Affaiblissant, ne devient pas un jour un poison puissant. La fièvre dans le sang, cette fille m'échauffe les sangs, comme un adolescent, je déraille bon sang. La fièvre dans le sang, cette histoire je le sens, ne finira pas sans effusion de sang.
En 87, la fièvre dans le sang avec Alain Chamfort sur RTL. Juste avant de marquer une courte pause, je voulais simplement vous dire que quand les frères Potier, Rodolphe et Jordan s'engagent à nous servir deux, trois petits trucs à grignoter pendant l'émission, ils tiennent parole. Kylian, bonjour. Vous êtes en cuisine.
Exactement.
En cuisine chez les frères Potier et vous nous faites la gentillesse de venir nous déposer ce qui est un petit casse-croûte comme ça, vite fait.
Très ah, rapide.
Qu'est-ce qu'on trouve?
Alors ici, vous avez des huîtres Veule des Roses, très fraîches, très bonnes, avec une pâte d'échalote et un anchois fumé dessus. Vous avez un boudin blanc maison, fait tout juste hier, avec des abats de pigeons. Ensuite, vous avez des chips soufflés. Avec de l'encre de sèche et du nori.
Génial.
Une petite tartine avec
des étrits.
Non, c'est de l'araignée de mer.
C'est de l'araignée de mer.
Araignée de mer arrivée ce matin, toute fraîche.
Incroyable.
Mélangée avec une petite mayo et du basilic.
Et, je vous parle, et au cas où,
pas de la mine, du pain.
Et du beurre. Et du beurre.
Et du beurre de Normandie.
Non, même pas. C'est même pas. Du fromage.
C'est ah, c'est du
gueule.
Fromage. Ah pardon, d'ici, oui. Vous voyez du beurre.
C'est sur, du la gueule.
Comme c'était à côté du pain, j'avais l'impression que c'était du beurre.
J'ai donné de ma personne.
L'huître.
Comment est l'huître?
C'est sublime.
Oh là là, mon Dieu.
C'est un truc de ouf.
Kylian, mille merci.
Je vous en prie.
J'embrasserai Big Flo et Yoli de notre part. Ouais.
Les frères Potier qu'on adore.
Potier. Absolument. Cette émission s'appelle RTL, vous
régale.
Absolument. On est là jusqu'à midi et demi, tous les jours.
RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka. RTL. 11h, 12h30.
RTL vous régale.
Je vous dis pas l'émulation autour de cette table.
Non, mais c'est pas
ils
sympa
sont
parce
comme
que vous...
des fous.
C'est pas sympa ce que vous me faites là.
Je vais avoir du mal à les retenir. Alors ce que je vais faire avec Louise, Jean-Sébastien, oui. C'est qu'on va vous donner les clés du camion.
Bien sûr.
Et vous allez nous parler du marché Saint-Marc de Rouen pendant que nous picorons.
Alors voilà, une petite huître par-ci.
Et comme on ne s'exprime pas la bouche pleine, maintenant c'est votre boulot.
Globalement, le marché Saint-Marc c'est le Graal pour bien manger à Rouen. C'est absolument incontournable. On y trouve des produits pas chers, on y trouve des plats de toutes les régions. C'est pas facile hein, de parler après. Bah, ça fait bien saliver, hein, c'est facile, c'est super. On peut rester des heures dans ce marché pour faire tous les étals, un à un, même sans rien acheter, juste pour le bonheur de discuter avec les commerçants. C'est un bonheur d'y aller le samedi, le dimanche matin. D'ailleurs, c'est pas les mêmes la plupart du temps entre les deux jours. Et vous avez un marché alimentaire, évidemment. Vous avez une brocante à côté. Il y a tous les grands classiques qui font. Vous avez également plein de stands de cuisine du monde où on fait de la cuisine libanaise, de la brioche hongroise tous les dimanches matins. C'est un marché où tous les fruits, les légumes des marchés locaux vous sont proposés. Il y a une ambiance extrêmement sympathique sur cette place qui est entourée de terrasses de café. Et ça, c'est à chaque fois un bonheur, la terrasse de café, parce que une fois qu'on a fait ses courses, on peut aller se poser, on peut commander une douzaine d'huîtres, on peut prendre un verre de Beaujolais blanc ou un autre vin, et on peut se régaler de beaux produits qui sont vendus juste à côté. Et puis surtout, vous avez des œufs de ferme qui vous sont vendus sur ce marché. Moi, j'ai des souvenirs d'avoir acheté des œufs de ferme.
Pondu du jour.
Pondu du jour. Et ça, pour faire des œufs à la coque, c'est quand même autre chose.
Ou pour faire les omelettes qui vous ont permis d'entrer dans la légende.
Alors, l'œuf ultra frais, quand même, le top du top, c'est coque ou poché.
Ouais, c'est bonheur, ça. RTL vous régale, c'est un défi quotidien. Vous savez que c'est le défi frigo, dans quelques instants, qui va opposer Jean-Sébastien et Louise. En direct depuis le musée des Beaux-Arts de Rouen, voici Justin Wellington sur RTL.
My bestie and your bestie sit down by the fire. Your bestie says she want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. Aiko, aiko, ane. Chokin' mo fina, anane. Chokin' mo fina, ane. Start my truck, let's all jump in. Here we go together. Nice cool breeze and big palm trees. I tell you life don't get no better. Talking about hey now. Pop it low now, take you to the max now. Jam in this small jam way. Jam in this small jam way. My bestie and your bestie dancing by the fire. Your bestie says you want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go, I'm it. Chucking more fina, I'm on it. Chucking more fina, I'm
it. Let me take it from here. Salomon girls straight up, right hootie mama. Make me party non-stop in a island banda. Swing those hips and back it up to me ragga. A chance for party ladies do the doggy doggy. I'm drumming island reggae, repping blue, green and yellow. Me tapping on me beat, make a slow wine for me baby. Speakers pumping, people jumping. We drumming the island way.
Shout out to the good time crew all across the islands. Grab your shoes, let me two by two. And now we're shining bright like diamonds. Talking about hey now.
Succès de l'été 2021, extrait de la compilation Les Artistes RTL, 40 tubes réunis sur un double CD. C'est la bande-son de votre été RTL. C'était Justin Wellington et le défi frigo d'RTL vous régale juste après ça.
11h-12h30.
RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka.
11h-12h30.
RTL vous régale. Jean-Michel Zeka.
Je vous le disais, le défi frigo d'RTL vous régale dans un instant de recettes originales. Juste après l'info, Guillaume est à Metz. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Bienvenue.
Bonjour
Guillaume. Bienvenue ici à Rouen au musée des Beaux-Arts. Merci. Est-ce que vous l'avez déjà visité?
Non, j'ai pas encore eu l'occasion d'y aller.
Eh ben, n'hésitez pas, si vous avez un peu de temps en ce mois d'août, c'est une destination absolument parfaite en famille. Guillaume, qui arrive avec l'ingrédient du défi frigo de ce midi, il s'agira de...
Gorgonzola.
Ah, c'est bien ça, c'est original. On va cuisiner le gorgonzola. Louise, Jean-Sébastien, le temps des infos, deux recettes. On vous attend juste après. Vous écoutez RTL, il est midi. Les infos présentées tout de suite par Pierre Collat.
Bonjour, bonjour à tous. Victoire pour la France en handball. Les Bleus emportent la demi-finale aux Jeux Olympiques de Tokyo, 27 à 23 contre l'Égypte. Ils sont donc assurés d'une médaille, soit en argent, soit en or. Ce sera la quatrième finale olympique consécutive pour la France en handball. Et ce sera ce samedi à 14h contre l'Espagne ou le Danemark. Déception pour Benjamin Thomas en cyclisme sur piste. Tout s'est joué dans les deux derniers tours de la dernière épreuve de l'Omnium. Finalement, le Français termine quatrième au pied du podium. En ce moment, c'est aussi la finale du combiné en escalade avec le Français Michael Mauem, qui va tenter de décrocher une médaille. Il a déjà emporté ses deux premières séries. Il est troisième à l'épreuve de la vitesse. À suivre dans les sports collectifs, dans une heure à 13h, demi-finale contre la Slovénie en basket. Et à 14h, encore une demi-finale, en volée cette fois-ci. Et ce sera contre l'Argentine. Notez aussi que Steven D'Acosta s'est qualifié en demi-finale de karaté dans les moins de 67 kilos. Et puis à 13h15, ce sera le lancer de javelot dans le décathlon, épreuve dans laquelle participe le champion français Kevin Mayer. Mayer blessé hier au dos. Pour le moment, il est quatrième du classement général. Il peut encore espérer une médaille de bronze. Voilà pour le point à la mi-journée aux Jeux Olympiques de Tokyo. Emmanuel Macron confirme une troisième dose de vaccin anti-Covid pour les plus âgés, les plus fragiles à la rentrée. Le président en a parlé sur Instagram et TikTok ce matin. Il publie des vidéos depuis lundi pour répondre aux questions des internautes à propos de la vaccination. Le ministère de la Santé parle d'un arbitrage la semaine prochaine pour préciser qui pourrait avoir le droit à cette troisième dose afin d'augmenter la résistance à la contamination au Covid-19. 8000 personnes sont actuellement hospitalisées, 1400 en réanimation. Le Conseil constitutionnel regarde le projet de loi sur l'extension du pass sanitaire en ce moment. Une décision très attendue qui devrait tomber dans l'après-midi. On saura si la stratégie du gouvernement pourrait être appliquée totalement ou seulement partiellement. L'extension du pass sanitaire dans ce projet de loi est prévue pour les cafés, les restaurants, les foires, les salons professionnels, les voyages en avion et certains trajets en train. Il est censé être appliqué dès lundi prochain, le 9 août. La météo de votre jeudi, le temps reste maussade dans le nord-ouest. Avec du vent et des averses. Des pluies localement orageuses concernent aussi le nord-est du pays. Un tiers sud bénéficie quand même d'un beau temps avec des températures de saison. Les températures d'ailleurs pour cet après-midi, 16 à Belfort, 18 à Alençon, 19 à Rennes, 18 à La Rochelle, 20 degrés à Bourg-Saint-Maurice, 21 à Strasbourg, 22 à Amiens, 23 à Toulouse, 27 à Nice et à Ajaccio. Les courses, c'est à Deauville-Latouc ce soir en nocturne, prix de la Fédération des éleveurs. Les pronostics de Jordan Philippi, le 15, le 11, l'As, le 16, le 2, le 5, le 12. La dernière minute, c'est le 16, I Dream. Et attention, le 9, Acclame et non partant, départ 20h15. Vous écoutez RTL, il est 12h passé de 3 minutes. On retourne à Rouen, au Musée des Beaux-Arts, pour la suite de RTL vous régale. Avec vous, Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud.
On est en plein casse-croûte, mais on est prêt pour le défi frigo. Merci Pierre Collat. Prochaines infos tout à l'heure à 12h30.
11h-12h30, RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud.
Qui a goûté les toasts à l'araignée ?
Ah, moi, c'est délicieux.
Le colis.
Le boudin ou pigeonneau, c'est un truc, c'est à tomber par terre.
Enfin, là, on... Et un jour, je comprendrais ce qu'il y avait dans les huîtres. Il y a une espèce de compoté de...
Bon, vous avez compris, on est en plein casse-croûte là.
Fabuleux. Bon, Guillaume.
Oui.
On s'est bien occupé de vous.
Qu'est-ce qu'on vous sert, Guillaume Bréfaille, boudin, huître ou araignée de mer sur un petit toast?
Oh, peu importe, je les aime tous.
Ah bah parfait.
Ah bah voilà. Vous arrivez avec du gorgonzola?
Oui.
Alors, du gorgonzola, a priori, sur une pièce de bœuf ou en pizza. Mais vous allez voir qu'il y a deux recettes originales.
Pour
qui
une
arrivent.
Fois que je peux faire une pizza.
Ouais, vous allez voir. On va se débrouiller avec un morceau de gorgonzola de bonne qualité. Deux recettes originales. Vous voulez démarrer avec qui?
Ah bah pourquoi pas avec Louise.
Allez, c'est parti, c'est Louise qui commence. Ah bah, on n'a pas le choix.
Mon cher Guillaume, je vous propose ce matin, enfin ce midi, une aubergine farcie. Donc vous allez prendre des aubergines, des petites aubergines, que vous allez couper en deux dans le sens de la longueur. Vous allez les vider et les faire cuire 10 minutes à 170 degrés. À côté de ça, vous aurez récupéré votre chair d'aubergine que vous allez faire revenir dans de l'huile d'olive avec du bœuf haché, du persil et un petit peu de parmesan. Comme ça, vous avez votre farce. Attention, j'arrive au moment du gorgonzola.
vous allez préparer une fine purée de pommes de terre. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de morceaux de pommes de terre. Vous allez incorporer petit à petit, pendant que c'est chaud, du gorgonzola. Voilà. Donc, ça va nous faire une purée de pommes de terre au gorgonzola. Vous récupérez vos aubergines, vous tapissez vos aubergines dans le petit creux de cette fameuse purée, puis votre farce. Direction le four, 15 minutes à 180 degrés. Vous ressortez vos petits joyaux d'aubergines farcies et là, vous mettez, Guillaume, un petit bout de gorgonzola dessus quand c'est bien chaud, afin que ça fonde délicatement.
Que ça fonde de peur.
D'accord.
Que ça fonde de peur.
C'est pas mal, hein. Aubergines farcies, oui. Bœuf, gorgonzola.
Voilà.
Avec une purée de pommes de terre. Ah, c'est tentant ce truc-là. C'est gourmand.
Alors, c'est régressif à souhait, c'est délicieux.
Complet. Qu'a imaginé Jean-Sébastien avec ce même morceau de gorgonzola ?
Un truc très très simple.
1 minute 30.
Très très simple. Vous allez prendre votre gorgonzola, vous allez vous le mélanger avec une belle double crème normande par exemple, hein, puisqu'on est en Normandie et c'est le pays de la crème et du beurre. Vous allez mélanger ce gorgonzola pour le rendre encore plus gourmand, si besoin. Vous allez faire griller des tranches de pain de campagne et vous allez étaler sur ce pain de campagne le mélange crème gorgonzola que vous allez généreusement poivrer et agrémenter de ciboulettes hachées. Ensuite, vous coupez des tranches de tomates, une belle tomate bien mûre, que vous allez poser comme ça sur le mélange. Et puis alors, le petit truc pour donner de la douceur, il y a plein d'amandes fraîches en ce moment. Vous achetez des amandes fraîches, vous les ouvrez, vous les décortiquez, vous en mettez en demi amande comme ça, vous posez sur la tomate. Vous mettez un peu de fleur de sel et vous allez voir que vous allez avoir une entrée qui va être à la fois acidulée, enveloppante, réjouissante et gourmande.
Et c'est fait. On l'intitule comment ?
C'est vous l'intitulez comme vous voulez.
Tomate gorgonzola.
Mais vous l'intitulez, surtout vous la mangez.
C'est dingue. Oui, non, mais c'est bien. Ça donne envie de bien la manger.
Ouais, manque un peu de pesto là-dessus, non ?
Non, mais ça, c'est vous, le spécialiste du pesto.
Avec
vos tomates mozza.
Bon, alors, Pierre, c'est notre journaliste avec qui je discutais il y a quelques instants. Guillaume ?
Oui.
Aubergine farcie gorgonzola, c'est Louise. Tomate gorgonzola amande, c'est Jean-Seb. Et maintenant, il faut faire un choix.
Ben, j'ai des aubergines, donc je vais choisir Louise.
Ah,
victoire,
merci.
Victoire. On ne s'y attendait plus. C'est contre toute attente.
Mais non.
Une victoire de Louise Petit. Non, mais ça faisait quelques jours que vous étiez un peu à
mais
la
pourquoi tête. Vous insistez là-dessus ?
Parce que c'est une victoire.
Et quand je gagne tout le temps, vous insistez pas dessus non plus.
Mais parce que.
Bon, merci beaucoup, Guillaume.
Vous savez pourquoi je suis fier de votre recette ?
Vous ne gagnez pas tout le temps.
Mais vous êtes vraiment mauvais joueur.
C'est là son problème. Bon, alors vous savez, Guillaume, que vous venez de gagner une montre RTL, qu'on va vous envoyer un guide du routard. Et puis surtout que vous êtes dans le chapeau hein, pour le tirage au sort de demain. Séjour de deux nuits pour deux personnes au château de Rochecotte avec un repas au restaurant de l'hôtel. Je ne sais pas si vous avez vu l'hôtel.
Oui, un petit peu, oui.
Château hôtel.
Bien charmant.
4 étoiles, fin 18e, c'est absolument magnifique avec des jardins à la française, terrasse à l'italienne. Vous dominerez la Loire et là, la chef Emmanuelle Pasquier va vous faire découvrir sa cuisine gourmande, innovante, passionnée pour un vrai moment de plaisir avec la personne de votre choix. Si on vous rappelle demain, il y a de grandes chances que ce soit dans la poche. Merci d'avoir joué avec nous.
Eh bien,
merci Guillaume.
On vous souhaite une bonne journée et n'hésitez pas à prendre des photos de votre aubergine farcie et à nous les envoyer parce que ça nous intéresse toujours.
Ah ben je vais voir ça.
Bon été à vous, bon mois d'août.
Merci.
Au revoir. Et je rappelle que pour vous inscrire au défi frigo, vous envoyez Régal par SMS au 64 900. Ouaf, c'est Julien Doré.
Il paraît que la terre est plate, que les rêves n'existent pas, que les pingouins s'acclimatent fort bien au nouveau climat. Ils te disent que c'est ta faute si tout c'était temps pour toi, mais y a bien des étoiles mortes que je vois briller là-bas. Oh là là, oh là là, ça rend de l'amour dans un verre de pastèque. Oh là là, oh là là, on a fait le tour de vers l'année de quelqu'un. Oh là là, oh là là, serre-moi de l'amour dans un verre de pastèque.
pastèque.
Oh là là, oh là là.
On a fait le tour de vers l'année de Kafka. Oh là là. Il paraît que la nature serait bien mieux sans nos lois. En attendant le futur, cacahuète pastèque. De l'amour dans un verre de pastèque.
Oh là là, oh là là.
On a fait le tour de vers l'année de Kafka.
Oh là là, oh là là.
Faire-moi de l'amour dans un verre de pastèque.
Oh là là, oh là là.
On a fait le tour de vers l'année de Kafka. Oh là là,
oh là là.
Viens, on s'accoude deux étoiles. Mon cœur a soif de voix lactée. Quelques glaçons, quelques larmes. Les gens font pour oublier. Viens, on s'accoude aux étoiles. Serre-moi de l'amour dans un verre de pastèque. Viens, on s'accoude aux étoiles. On a fait le tour de vers l'année de Kafka. Viens, on s'accoude aux étoiles. Serre-moi de l'amour dans un verre de pastèque.
Oh là là.
Viens, on s'accoude aux étoiles. On a fait le tour de vers l'année de Kafka. Oh là là.
Waf, c'était Julien Doré sur RTL. Et dans RTL Vous Régale, dans un instant, on va remplir le panier, comme tous les jours. Nous sommes à Rouen. Que rapporter de votre périple? La réponse après ceci.
11h-12h30.
RTL Vous Régale.
Et plus.
RTL Vous Régale jusqu'à 12h30. Jean-Michel Zeka.
Je ne sais pas, c'est peut-être mon petit doigt qui m'indique ça, mais je ne sais pas ce qui me fait dire ça, mais j'ai l'impression que le panier aujourd'hui, ça va être garni, hein. Ça va être gratiné, vous allez voir.
Mais toujours, on a de la route.
On a de la route, on ne va pas rentrer à vide.
Bredouille.
Le truc qui est terrible, c'est qu'on se rend compte que dès qu'on nous apporte à manger, il n'y a rien dans le coffre parce qu'on finit tout sur place.
Oui, c'est ça le problème.
Non, mais comment vous avez jeté un sort au bout d'un an? C'est une folie.
Et aux huîtres,
pas vu passer.
Je n'ai même pas pu en manger.
On commence avec du canard.
Oui, Louise en parlait tout à l'heure. Le canard de Rouen, avant d'être une recette, c'est une race qui descend du col vert, qui vient directement du canard sauvage. Et on comprend aisément pourquoi Grimaud de la Reynière le considérait comme le meilleur de tous les canards de France, parce qu'il est élevé sous les pommiers, il est élevé dans les herbages. Ça fait de lui une véritable merveille quand on le cuit à la broche. Le croisement d'un canard de Barbarie avec une canne de Rouen a donné aux éleveurs du Sud-Ouest le canard mulard avec celui qu'on fait du foie gras. Donc il faut quand même remercier les Rouennais et la Normandie de nous avoir offert le foie gras. C'est avec le canard de Rouen qu'on fait le fameux canard au sang dont nous a parlé Louise tout à l'heure. On fait également le canard de Chaland. La Tour d'Argent en a fait une recette absolument mythique sous la houlette de Frédéric Delair, le maître d'hôtel du resto et le propriétaire en 1850, on faisait un service en salle qui a pris un tour totalement nouveau. Le caneton Frédéric Delair, qui est devenu le canard au sang tel que nous le connaissons aujourd'hui, est une merveille absolue. Il s'illustre où on découpe le canard à bout de fourchette, sans qu'il ne touche le plat, sûr de la pérennité de son œuvre. Il a décidé en 1890 de numéroter chaque canard et la tradition perdure aujourd'hui à la Tour d'Argent où chaque canard qui vous est servi est numéroté.
Louise, il y a de la pomme?
Bah oui,
mais pas que.
Mais pourquoi pas rapporter un jus de pomme, tout simplement. Parce que la pomme, c'est quand même le symbole de la Normandie. Ça a été associé depuis l'Antiquité à l'immortalité. Ça a été le fruit de la discorde entre Adam et Ève dans la Bible. Et
ça a trouvé surtout une place de choix en Normandie. Il y a de nombreuses variétés qui se sont développées grâce à ces jardins monastiques dès le Moyen-Âge. Donc moi, je vous dis, vive le jus de pomme normand.
Je pense que dans le déjeuner de
dans l'œuvre qui se trouve derrière nous, là,
il y a une carafe avec du jus de pomme, ouais, ou du cidre au moins.
Ouais. Par contre, il n'y a pas de mirliton.
Alors, il n'y a pas de mirliton. Mirliton, c'est une spécialité de la ville. C'est une tartelette à déguster tiède qui est garnie d'une crème parfumée à la vanille, à la fleur d'oranger, aux amandes. C'est un peu tombé en désuétude. C'est comme le salambo, mais
on va remettre ça à la mode.
Mais c'est un truc. Vous savez, c'est le genre de gâteau totalement régressif dans lequel on aurait envie de plonger.
Rouen, forcément lié intimement à l'histoire de Jeanne d'Arc, on en parlait en début d'émission. Il y a les larmes de Jeanne d'Arc.
Mais oui, que c'est triste. Les larmes de Jeanne d'Arc, c'est un petit gâteau. Ça met à l'honneur, forcément, l'un des personnages les plus emblématiques de l'histoire de Rouen. C'est des friandises qui font référence à cette ville. Alors, c'est une forme ovale. Ça donne son nom à cette amande grillée, caramélisée et nappée de chocolat noir. C'est une ganache recouvre tout ça. Le créateur de cette friandise est le chocolatier Ozou, qui est au 103 rue du Gros Horloge à Rouen.
Je sais que vous avez une formule très personnelle sur la Turgoule.
Oui, c'est pas une formule.
C'est un slogan, c'est quoi ça?
La Turgoule, ça tord la goule.
C'est ça.
La bouche.
Voilà. Il est midi 18 et tout est sous contrôle.
Mais non, c'est pas de ma faute si vous n'êtes pas au fait, quoi.
C'est quoi la Turgoule, on rappelle?
C'est un dessert emblématique de la Normandie. C'est une sorte de riz au lait où le riz rond, le sucre et la cannelle viennent cuire pendant 8 heures dans du lait entier. C'est une cuisson qui se fait au four dans un plat en terre cuite, ça c'est très important. Ce sont des plats généralement qu'on se transmet de génération dans les familles en génération. Ces plats sont spécialement conçus pour la Turgoule. C'est vraiment une tradition. Ce plat favorise l'évaporation du lait pour ne garder que la crème qu'il contient. Et après une cuisson, il y a une épaisse croûte de crème qui se forme et qu'il faut évidemment briser. Moi, je le fais avec beaucoup de bonheur.
Et manger.
Voilà. Et je crois que nous avons au téléphone Gilbert.
Gilbert Turgis, qui est artisan potier à Noron, à la poterie, en Normandie. C'est un des derniers artisans potiers à des kilomètres à la ronde. Bonjour Gilbert.
Bonjour.
Bienvenue sur RTL. Il n'y a pas de vraie Turgoule sans poterie?
Ah ben c'est la forme emblématique de la Turgoule. Bon, je vais pas dire que c'est meilleur que dans un autre récipient que ce récipient-là.
Oh ben si, on peut le dire, Gilbert, hein.
C'est-à-dire qu'on a autre chose, on a un autre résultat dans les terrines à bec de Noron.
Alors donc, il faut expliquer de quoi il s'agit. Donc vous fabriquez dans votre atelier cette espèce de petit plat, c'est ça?
C'est une jatte qui servait à l'origine aux paysans autour de 1700 seulement à faire la crème. Et la Turgoule est arrivée vers 1760 à peu près. Donc le monde paysan s'est servi des récipients qu'il disposait. C'est pour ça que cette terrine, elle a débuté pour la Turgoule.
Mais on peut en faire mille et une choses en plus. C'est un plat assez joli, c'est un plat de tradition. On peut l'utiliser pour faire des salades et des tas de choses. Des coupes à fruits.
Ça peut avoir une autre destination, c'est sûr.
Et alors justement, Gilbert, est-ce que vous avez des jeunes qui viennent acheter ces fameux plats pour remettre un peu au goût du jour la Turgoule?
Oui, oui, on a pas mal de gens qui viennent même de très loin, voire de l'étranger, parce que la Turgoule, c'est comme tous les plats régionaux, avec la télé, avec la radio, avec plein de choses, ça devient connu. Et en plus, c'est très très bon.
Ah, vous en faites, vous, Gilbert?
Ah oui, nous on se sert comme à l'origine faisaient les potiers, c'est-à-dire quand notre four de cuisson qui va à 1200 degrés, les terrines sont cuites à 1200, mais quand le four refroidi qui se trouve autour de 160 à peu près, on met une ou deux gamelles de Turgoule à l'intérieur.
Ben voilà, Gilbert, c'est quand même incroyable, et ça devient rare en France finalement aujourd'hui, qu'un village, je parle de Noron-la-Poterie, porte carrément, soit associé au nom de son artisanat.
Oui, il y en avait à l'origine, il y en avait beaucoup. Il y avait mais bon, Noron est resté un des derniers vrais villages artisans. Nous sommes pas artistes, nous sommes des artisans, c'est totalement différent. Et à Noron, il y avait à l'origine une soixantaine de poteries, qui est un tout petit village de 280 habitants. Vous voyez, c'était énorme.
Je précise qu'on peut visiter l'atelier pour voir comment vous travaillez.
Bah, avec la Covid, non, on peut pas pour le moment.
Ah bon?
D'accord. Oui, parce qu'on n'est pas une grosse structure. Donc, ouais. S'il rentre 20 personnes dans l'atelier avec les gens qui travaillent, c'est pas évident. Hein.
Mais on espère des jours meilleurs parce qu'on viendra vous saluer, en tout cas. Démasqué, on le souhaite.
Et est-ce que vous pensez qu'on peut garder le même plat de la torgoule pour la terrine, qu'on nettoie pas, on ne lave pas pour faire derrière la torgoule? Petite torgoule au bout de terrine.
C'était un peu...
Il vaut mieux en acheter deux. C'est mieux.
Merci d'être venu nous voir dans RTL vous régale. Gilbert Turgis, artisan potier à Noron, la poterie. C'est en Normandie. On vous souhaite une bonne journée, Gilbert. À bientôt.
C'est marrant de faire une thématique potier.
Ah bah oui.
C'est joli. Ah, il suit quand même. Hein. Allez, midi 22. C'est dans la playlist, dans le jukebox d'RTL vous régale ce matin. Divine Idylle. Voici Vanessa Paradis sur RTL.
Dans l'espoir docile, tes ailes fragiles, je te devine, divine idylle, l'amour qui sommeille dans un souffle réel, ma folie, mon envie, ma lubie, mon...
Vanessa Paradis sur RTL. Dans un instant, Jean-Seb, le petit pas de côté qui va nous emmener à côté. Mais pour le coup, nous ne pouvons pas parler de rester à Rouen. Je vais le faire en français, celle-là, par exemple. Petit pas de côté qui nous permet de rester dans... Et pourtant, on n'a pas trouvé de vin encore. Hein, ça veut dire. On reste à Rouen ?
Absolument.
Mais on fait quoi ?
Alors, hier soir, tard, l'Angleterre a annoncé qu'elle levait les mesures... de quarantaine pour les Français en arrivant sur le territoire. C'est justement ça qui m'a inspiré cette affaire-là.
On en parle dans un instant. À tout de suite sur RTL.
Jusqu'à 12h30, RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka.
Alors, les relations historiques, c'est vrai, parfois compliquées entre la France et l'Angleterre.
C'est... Voilà, les mesures de la quarantaine ont été levées hier soir pour les Français arrivant sur le territoire anglais. Alors forcément, en étant ici à Rouen, ça m'a remis en mémoire les relations historiques compliquées que les deux pays entretiennent depuis très longtemps. En fait, depuis 1066, depuis l'arrivée de Guillaume le Conquérant, lorsque le Normand devint roi d'Angleterre. Depuis, faut bien avouer qu'entre les deux pays, c'est coussi coussa. Philippe Auguste et Richard Cœur de Lion furent rivales durant des années... La guerre de 100 ans pointe à son nez, et ça n'a pas été simple non plus. Conflit absolument inouï, la guerre de 100 ans. 1337-1450, qui emporta les deux États dans une guerre interminable, avec un objectif dont il faut se souvenir, anéantir
l'autre. Cette guerre trouvait une issue à cause d'un événement. L'arrestation, le procès et la condamnation de Jeanne d'Arc à être brûlée. Elle ne fut pas condamnée pour hérésie, comme on l'a souvent dit, mais pour parjure, ce qui n'était pas mieux à l'époque. On lui fit jurer, en fait, de ne plus porter de vêtements masculins, comme elle en avait pris l'habitude, mais on ne lui donna que cela pour la vêtir. Donc, parjure. Les Anglais qui avaient récupéré la jeune fille capturée par les Bourguignons en 1430 à Compiègne, les Bourguignons l'avaient vendue aux Anglais contre 10 000 livres. Toujours est-il qu'en 1431, l'affaire est faite et elle est brûlée. Ce dont on se souvient moins, c'est qu'au début de cette guerre de 100 ans, il y avait une autre petite chose qui a débuté vers 1346. Une chose qui a anéanti près de la moitié, qui a démarré en Angleterre, dans le sud de l'Angleterre, et qui a anéanti près de la moitié de la population européenne en 5 à 6 ans. Il y a eu 25 millions de morts. Ça s'appelait la peste noire.
Je vous vois venir.
Alors vous me voyez venir. Sauf que la peste est causée par une bactérie. Les bactéries, on s'en débarrasse avec des antibiotiques. La France est championne du monde de consommation d'antibiotiques. Ça ne me pose pas de problème. Contre un virus, il faut un vaccin. Si on peut nous éviter 100 ans de guerre pour un vaccin, je trouve que c'est pas plus mal.
Jean-Michel Zeka jusqu'à 12h30. RTL vous régale.
11h, 12h30, RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka.
J'espère que vous avez passé une bonne fin de matinée. RTL vous régale sera de retour demain dès 11h et nous serons de nouveau ici au Musée des Beaux-Arts pour l'exposition Salambeau dont RTL est partenaire. Je rappelle que ce Musée des Beaux-Arts de Rouen célèbre le bicentenaire de la naissance de Gustave Flaubert. Demain, justement, les boucles de la Seine.
Oui.
On va faire un trajet de la Normandie jusqu'au Havre, justement.
Voilà, on va se balader dans les boucles de cette scène qui sont absolument merveilleuses.
On est reparti pour un tour.
Très bonne journée à tous. Vous écoutez RTL. Il est...